Bonsoir, c'est Pierre de Peine du Tarn. Bien, je viens d'écouter les hommages rendus à Bebel et le journaliste de France Inter a dit que c'est dommage que Belmondo s'est coupé une partie de son public en disant qu'il était opposé à la corrida. Eh bien, je pense que Bebel, au contraire, il a eu bien fait de donner cette information puisque je pense que la plupart des gens sont opposés à cette barbarie qu'est la corrida. Ben, bonne émission, à bientôt, au revoir.
Bonjour, c'est Chantal. Je vous présente mon projet. Moi, j'ai démarré une marche de 1000 km depuis le 9 août. Je suis partie de Nantes. Mon objectif, c'est d'alerter sur le sort de la tortue la plus rare et la plus menacée de France, l'émide lépreuse. Et sur mon chemin, je parle aussi biodiversité avec différentes personnes, différentes structures. Là, je suis dans le Lot. J'ai déjà fait presque 800 km. J'arriverai à Bessières, près de Toulouse, normalement le 18 septembre, au refuge des tortues. Et je récolte en fait des fonds pour cette tortue via une cagnotte Helloasso. Voilà, je suis heureuse d'avoir partagé avec vous mon expérience.
Allô, bonjour Mathieu, bonjour Camille, félicitations pour les émissions. Jean-Michel de Roche-la-Molière, proche banlieue ouest de Saint-Étienne. Je fais des relevés météorologiques depuis 1970. Dans les années 1970, il y avait 80 jours de gel complet à Saint-Étienne. Mais depuis 10 ans, nous tournons à 3, 4, 5, voire 0 journée comme il y a 2 ans. Changement réel de climat. De plus, avec le fort ensoleillement dû à l'altitude, il semble que nous passons maintenant en climat méditerranéen continental, bien sûr, comme le climat de Madrid en Espagne. Voilà. Une autre remarque, les martinets ne sont encore pas partis. On les entend pépier joyeusement au-dessus de la ville. Nous sommes quand même début septembre. Merci.
C'est Carouane et j'appelle depuis Collioure. Bonjour la Terre au carré. Nous organisons une manifestation le 10-11-12 septembre à Collioure, donc dans les Pyrénées-Orientales, pour célébrer la mer sous l'angle de l'environnement. C'est donc pignon sur mer, c'est du cinéma sur la plage, c'est l'écoute de podcasts au petit matin ou au soleil couchant, et évidemment on en écoute aussi la Terre au carré. Ce sont des spectacles sur l'eau et sur le port, des rencontres scientifiques et littéraires, et un final symbolique qui est un grand nettoyage de la plage, puisque l'essentiel de cette manifestation se passe sur le sable et le regard sur l'horizon. À bientôt sur la radio. Au revoir.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Et bienvenue dans notre club de la Terre au carré. Il sera question aujourd'hui d'un volcan sous-marin surveillé comme le lait sur le feu. Vous en saurez plus sur le dragon de Komodo qui vient de passer malheureusement sur la liste rouge de l'UICN en tant qu'espèce menacée d'extinction. Et puis on s'intéressera à ces étudiants issus des grandes écoles qui décident de changer de cap pour s'engager dans l'écologie. Pour en parler, je reçois en studio la géoscientifique Nathalie Feuillet, le biologiste herpétologue Nicolas Vidal et Arthur Gosset, étudiant à l'école centrale de Nantes. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue, on va se retrouver donc dans un instant. Vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux, également sur l'appli France Inter où vous pouvez désormais nous laisser des notes vocales. À 14h30, on vous retrouve, Camille Cronier, pour votre dernière journée à Marseille. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors le vendredi, vous savez que c'est les bonnes nouvelles. Il y en a ici aussi à Marseille et j'ai croisé pas mal de monde pour m'en donner.
Et pour cette émission, bien Valérie Ayestaraï est aux commandes. Elle a été préparée par Colin Gruel, Léonard Ocane avec la technique Pauline Laverdure.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. France Inter.
Avec un premier tour de table pour faire connaissance avec nos invités. Nathalie Feuillet, on va commencer avec vous tout à l'heure. Vous êtes l'autrice principale d'une étude sur la naissance du volcan sous-marin de Mayotte depuis 2018. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Éruption exceptionnelle. Est-ce qu'elle est toujours en cours d'ailleurs en ce moment?
Alors, on ne sait pas si l'éruption est toujours en cours. Là, actuellement, on y va. Il y a une équipe qui part le 14 septembre.
Oui.
Les dernières traces d'activité sur le fond océanique, c'était en janvier, mais on a toujours de la sismicité et toujours de la déformation.
Ouais.
Donc le phénomène magmatique, on va dire, est toujours en cours, mais on ne sait pas si... il y a toujours des sorties de lave actuellement.
Bel objet de science en tout cas pour vous, voilà. On en discutera, vous allez nous raconter exactement ce qui se passe au large de Mayotte. Nicolas Vidal, le dragon ou varan de Komodo, a fait donc son entrée, en tout cas il est passé dans la catégorie espèce menacée d'extinction dans la liste rouge de l'UICN. Combien d'individus vivent encore sur la planète là?
Un petit peu moins de 4000 dans le milieu naturel.
Ouais, et sur une superficie ultra limitée. Hein.
Oui, c'est 1000 km².
Ouais, on va décrire cet animal exceptionnel, très intéressant, puissant. Et vous nous en direz plus donc sur le varan de Komodo. Arthur Gosset, vous venez de réaliser Rupture. C'est un documentaire sur des camarades comme vous, issus des grandes écoles, où tout le monde semble se remettre en question sur son avenir, avenir tout tracé pourtant, et qui, donc vos amis, ont décidé de s'engager dans l'écologie. C'est un film que vous avez réalisé un peu pour vos parents aussi, je crois. Hein.
Oui, effectivement. Oui. C'est quand je creuse dans le fond... à la base, c'est pour parler principalement d'un mouvement que moi je vis de l'intérieur, dans la centrale Nantes. Mais c'est aussi pour mes parents, parce qu'on était en rupture et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour leur parler, de leur communiquer d'une manière différente.
Rupture générationnelle, donc on va en discuter également avec vous. Hein, et puis parce que ça bouge beaucoup aussi dans ces grandes écoles. On se retrouve dans un instant avec les messages, les témoignages des auditrices et auditeurs sur franceinter.fr. About it. C'était Jungle à l'instant.
La Terre au carré, sur France Inter.
C'était le 10 mai 2018, date à laquelle a débuté l'essaim de séisme dans notre île. Déjà plus de 1800 secousses ont été enregistrées, allant de magnitude 3 à 5 selon le BRGM, le Bureau Régional et Géologique de Mayotte. La plus forte jamais recensée était de 5,8. Rien qu'au mois d'avril, plus de 130 séismes au rythme de 4 par jour, au moins, ont été ressentis. Les épicentres se situent entre 30 et 50 km à l'est de Mamoudzou.
Voilà, extrait de la première, la chaîne de télévision de Mayotte, a priori en mai 2019. Nathalie Feuillet, vous êtes avec nous, responsable de l'équipe de géosciences marines à l'Institut de physique du Globe de Paris. Et vous êtes spécialiste de tectonique active. Et donc, le 26 août dernier, vous avez publié dans la revue Nature Géosciences une étude sur ce volcan sous-marin de Mayotte qui représente, semble-t-il, la plus grande éruption sous-marine jamais documentée. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous planter le décor pour imaginer où se trouve ce volcan par rapport à l'île de Mayotte et pour comprendre en quoi il est unique aussi?
Alors ce volcan, il est sorti à peu près à 50 km à l'est de l'île de Mayotte, en mer, donc c'est un volcan sous-marin. C'est un volcan qui fait 820 mètres de hauteur et un peu plus de 5 km de diamètre.
Ouais.
Et donc c'est un volcan qui est très gros et qui se situe sur une zone volcanique, on va dire, composée, une sorte de ride volcanique composée de plusieurs autres édifices qui sont assez récents probablement à l'échelle des temps géologiques et qui finalement constituent une zone de volcanisme actif au large de Mayotte.
Ouais, mais on savait déjà avant la découverte de ce volcan qu'il y avait beaucoup de volcanisme sous-marin là dans cette zone ou pas ?
Alors, on savait qu'il y avait des dômes sous-marins autour de l'île de Mayotte, mais on n'avait pas d'informations sur leur activité. Par contre, on sait que sur l'île de Petite Terre, à Mayotte, on a des édifices volcaniques qui sont assez récents, qui ont quelques milliers d'années. Alors récents à l'échelle des temps géologiques, encore une fois.
Ah oui.
Donc, mais Mayotte n'avait jamais connu finalement d'activité volcanique au cours de son histoire.
Ouais. Et alors ça, c'est étonnant. Et donc vous tombez sur ce volcan sous-marin. Comment ça s'est passé donc en 2018 la découverte de ce monstre sous-marin?
Voilà. Alors on n'est pas tombé dessus parce qu'on l'a quand même cherché, on va dire. Et donc quand les séismes se sont produits en mai 2018. On a organisé le déploiement de stations sismiques à terre et puis en mer.
Ouais.
Et on a été voir ce qui se passait au fond avec le navire Marion Dufresne en mai 2019.
Ouais. Mais vous disiez, on est allé le chercher, enfin on était à la recherche de quelque chose.
Oui.
Donc il y avait déjà des indices.
Alors il y avait des indices parce que donc les essaims sismiques, les séismes se produisaient en essaim.
Ouais.
Et donc ça c'est assez typique finalement de l'activité volcanique. On avait l'île qui se déformait à partir de juillet 2018.
Déformation de l'île, alors.
Oui, l'île s'enfonçait et se déplaçait vers l'est à des vitesses très importantes pour un phénomène tellurique d'ailleurs.
C'est-à-dire ?
Alors on était de l'ordre de 20 cm par an, donc ce qui est quand même énorme.
Ouais.
Et les modèles qui avaient été faits à l'époque par nos collègues de l'ENS montraient que cette déformation ne pouvait être expliquée que par le vidage d'un réservoir profond.
Ouais. Et donc c'était le réservoir du volcan.
Et c'était le réservoir du volcan. Donc
ouais.
on savait qu'il se passait quelque chose. Et notre objectif, c'était de voir si on avait une éruption, parce qu'on peut avoir un phénomène magmatique, mais le magma ne peut pas sortir.
Ouais.
Et là, notre objectif, c'était de rechercher finalement des traces d'activité volcanique au fond de l'océan.
Ouais. Mais ces éruptions, est-ce qu'elles sont visibles depuis l'extérieur ou pas du tout ?
Alors, ces éruptions sous-marines, elles sont pas visibles depuis l'extérieur, sauf quand elles arrivent près de la surface.
Ouais.
Là, à Mayotte, ce qui nous renseignait sur ce phénomène magmatique en cours, c'était la sismicité et les déformations.
Ouais.
Voilà.
Et il y en a eu beaucoup. Hein.
Et il y a eu aussi, quand même, j'oublie ça, des témoignages de pêcheurs maorais qui ont vu, qui ont senti des odeurs de soufre, qui ont vu des poissons morts dans la zone
ouais.
où ensuite on a découvert le volcan.
Alors on va justement écouter la population sur place, parce que les séismes, il y en a eu énormément, ils se comptent par milliers hein, d'ailleurs,
ah oui,
les secousses.
Il y a eu énormément de séismes et plusieurs centaines de séismes me ressentis.
Donc
ouais.
impossible d'y échapper lorsqu'on habite à Mayotte.
La maison, la cuisine, tout bouge. Hier, j'étais là et c'était comme ça.
Ces séismes répétitifs, c'était quelque chose d'inconnu. Inconnu pour la population, mais inconnu aussi pour les scientifiques, inconnu pour les autorités.
Le premier jour où ça a tapé fort, même les poteaux électriques, tu les vois comme si ça va tomber.
Ce qu'on voit, c'est que y a plein de saisons, les données sont belles. Ça, c'est une triangulation. On sait que si on a beaucoup de stations qui sont tout autour d'une saison, on sait le temps que ça arrive, ces ondes, on sait à peu près la vitesse auquel ils propagent. Et donc, on peut, dans un sens, rétropropager ces ondes de ces stations. Ils vont tous converger sur un point. Et ce point, c'est le hypocentre du séisme.
La voix de Wayne Crawford, qui est aussi auteur de la publication que vous signez, Nathalie Feuillet. Quand on est à Mayotte, donc aujourd'hui, il faut vivre avec cette sismicité permanente ?
Alors exactement, donc c'est vrai que les séismes les plus forts ont eu lieu en mai et juin 2018.
Ouais.
Ensuite, à l'été, ça s'est un peu calmé, puis ça a recommencé, mais avec des séismes un peu plus petits. Mais là, maintenant, la sismicité a beaucoup diminué, on a beaucoup moins de séismes, mais il y a encore quelques, de temps en temps, des séismes ressentis.
Ouais.
Et donc, il va falloir, oui, tant que l'éruption est en cours, supporter ces séismes.
Ouais, justement, François sur franceinter.fr demande, est-ce que ce sont les séismes qui créent les éruptions du volcan ou est-ce que c'est le contraire ? Ça se passe dans quel sens ?
Alors là, ici, c'est l'éruption qui a créé les séismes parce que le magma, en se propageant vers la surface, a fracturé la croûte et c'est ce qui a créé les séismes.
Ouais.
Parfois, on peut avoir aussi des grands séismes qui peuvent déclencher des éruptions. Mmh. Ça a été aussi documenté.
Nicolas Vidal, vous avez une question, je crois, pour Nathalie Feuillet.
Oui, parce que le Marion Dufresne, le navire, il est utilisé pour pas mal d'expéditions, y compris par le muséum, et je voulais savoir si des biologistes vous avaient accompagné durant vos missions.
Alors, on n'avait pas de biologistes avec nous au cours des premières missions, mais là, on a fait une mission en avril, la mission Géoflamme, et où il y avait effectivement des biologistes marins avec nous pour essayer de comprendre comment allait se développer toute la faune autour du volcan Mayotte au cours du temps.
Ah, ça, c'est une super question, parce qu'effectivement, ce volcan sous-marin, c'est aussi une explosion de vie. Je crois que le terme est employé pour parler de la diversité biologique qui, justement, s'installe autour de ce volcan.
Oui, alors moi, je suis pas biologiste, mais c'est vrai que nos collègues biologistes qui nous ont accompagnés étaient bluffés de voir tout ce qu'on voyait avec on a plongé avec un robot, donc on voyait effectivement sur la lave des tapis bactériens
sur la lave,
assez épais, sur les coulées.
Ouais. Donc c'est-à-dire que ce sont des organismes de l'extrême, quoi, qui arrivent à vraiment
alors
vivre...
Alors non, parce que la lave, elle est refroidie maintenant, mais il y a tout autour plein d'éléments chimiques qui favorisent le développement de la vie et le développement de ces tapis bactériens, en fait.
Ouais. Et donc ça, c'est à l'étude aussi?
C'est à l'étude et il faudra certainement beaucoup de campagnes pour comprendre comment la vie s'installe sur ce type d'édifice nouveau.
Qu'est-ce qui déclenche au départ une éruption de ce type ?
Alors, l'éruption de Mayotte, elle n'a pas vraiment d'analogue. C'est un phénomène très étrange par rapport aux autres éruptions, c'est-à-dire parce que les réservoirs sont très profonds. Donc on ne sait pas exactement comment ça s'est déclenché, mais à l'origine c'est le réservoir qui est sous pression qui se fracture et puis on a une fissure qui se propage jusqu'à la surface pour laisser passer le magma.
Donc il y a encore plein de points d'interrogation pour les chercheurs.
Ah oui, beaucoup de points d'interrogation pour ce.
Il y a beaucoup de disciplines à travailler justement là sur cet élément assez nouveau et d'ampleur.
Ah oui, il y a des sismologues, des géologues, des pétrologues, des géodésiens, des biologistes. Voilà, il y a beaucoup de monde qui travaille sur Mayotte actuellement.
L'île, elle continue de se déformer toujours, régulièrement ou pas ?
Ça a beaucoup ralenti. Voire presque stoppé. On ne sait pas encore exactement. On n'a pas... Il y a pas mal de bruit dans les données, donc c'est difficile de dire que c'est complètement stoppé. Mais c'est beaucoup moins qu'avant. Donc effectivement, c'est en train de se calmer au niveau séisme et déformation. Ouais.
Sauf qu'un volcan, c'est imprévisible. Donc c'est une activité qui peut repartir aussi de plus belle.
Voilà, on peut imaginer que ça peut s'arrêter, mais ça peut aussi recommencer si les réservoirs profonds sont rechargés régulièrement.
Il paraît que vous avez repéré aussi l'éruption par le son depuis l'extérieur. C'est vrai ça ou pas ?
Alors, on a repéré l'éruption quand on était à bord du Marion Dufresne avec un outil qui s'appelle un sondeur multifaisceau et qui finalement analyse la colonne d'eau et le fond marin. et la colonne d'eau au-dessus du fond marin. Et c'est là qu'on a vu une anomalie acoustique dans la colonne d'eau, qui était vraiment liée à des sorties de fluide au sommet du volcan. Et c'est comme ça qu'on a découvert le volcan.
Donc il y avait un panache acoustique, c'est
un
ça?
Un panache acoustique.
Ça, c'est magnifique, mais qui vous a vraiment mis sur la piste aussi. C'est ce qui vous a permis
C'est grâce à ça qu'on a découvert le site volcanique.
Ouais. Est-ce qu'il y a un danger réel là, pour les gens de Mayotte ou pas? Ou est-ce qu'il est relativement mesuré et...
Alors, pour l'instant, étant donné que la déformation diminue, la sismicité diminue, qu'on a moins de lave à chaque fois qu'on revient sur site, on a moins de lave à la surface. On pense que voilà, l'éruption a un peu diminué. Enfin, donc le phénomène a un peu diminué.
Ouais.
On surveille la zone au-dessus de laquelle on pense que le réservoir principal est. En fait, il y a un réservoir principal et on pense que ce réservoir principal est à 5-10 km des côtes de Mayotte. Et c'est cette zone qu'on surveille particulièrement.
Il y a une question de Patrice sur franceinter.fr. Il nous dit ceci. La leçon à tirer de ce volcan n'est-elle pas que l'absence de séisme antérieur ne prévaut en rien d'un séisme possible n'importe où sur la planète? Alors, vous n'êtes pas volcanologue, mais vous allez quand même pouvoir lui répondre.
Oui, c'est sûr. Alors, bon, bien sûr, les temps de retour des séismes peuvent être très longs. Ça peut être plusieurs dizaines, centaines d'années, voire milliers d'années. Et c'est pas parce qu'une zone a une sismicité très faible ou très peu de séisme qu'on va pas avoir dans cette zone un séisme plus important ou un essaim de séisme important.
Arthur Gosset, pour réagir.
Oui, moi je me demandais, est-ce que vous avez possibilité de prévoir une éruption suffisamment tôt en avance pour évacuer les populations de Mayotte qui pourraient potentiellement être en danger?
Alors là, ici à Mayotte, on surveille l'éruption, donc on a des seuils d'alerte. Alors c'est pas moi qui les définit, mais je fais partie de ce groupe de réflexion. Mais sur les volcans instrumentés depuis longtemps, comme les volcans français, la Soufrière, la Martinique, on a des procédures, en lien avec la préfecture pour la protection des populations.
Île française, évidemment, on le rappelle, faut-il le rappeler? Et
voilà,
vous y
retournez
la semaine prochaine avec, enfin pas vous forcément, mais il y a une équipe qui va sur place.
Pas moi, mais il y a une équipe qui part la semaine prochaine, effectivement, pour une nouvelle campagne de surveillance du volcan.
Voilà. Et il y aura d'autres publications, j'imagine, parce que là, c'est vraiment un lieu d'observation génial pour les chercheurs.
Ah oui, bien sûr, il y aura sûrement beaucoup d'autres publications. Voilà,
et c'était la dernière, en tout cas, dans Nature Géosciences, le 26 août dernier. Merci beaucoup Nathalie Feuillet. Je vous laisse partir car je sais que vous devez nous quitter. Merci d'être passé au micro du Club de la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Et c'est l'heure de Camille Passauvert et le vendredi, c'est le journal des bonnes nouvelles et Camille Cronier, parce qu'il y en a, même au Congrès mondial de la nature à Marseille, où vous êtes toujours.
Oui, et heureusement même, j'ai envie de dire, parce que je vous rappelle que ça a commencé fort samedi avec l'annonce de la nouvelle liste rouge des espèces menacées. 30% des quelques 138 000 répertoriés sont en danger, notamment les requins, les raies et le dragon de Komodo. Mais donc, rassurez-vous, il y a aussi des bonnes nouvelles.
Absolutely, there's always good news. I think there's always hope.
Et de l'espoir en prime, dit Angela Young du Centre pour la survie des espèces d'Indianapolis aux États-Unis.
Oh gosh, we were just talking today about the discovery of new orchid species.
Et hop, une nouvelle espèce d'orchidée en Équateur. Et c'est pas fini. Elle raconte qu'un de ses collègues lui a parlé du tamaro, une espèce de buffle vivant aux Philippines. Ils ont repéré une nouvelle population récemment. Voilà, c'est le genre de petites bonnes nouvelles qui nous font continuer, conclut Angela Young. Alors il y a aussi, on en a parlé d'ailleurs Mathieu, le thon qui va mieux, que ce soit dans l'Atlantique. Retraissement spectaculaire, disent les chercheurs. Mais aussi en Méditerranée, par exemple, et ça, grâce aux quotas de pêche en particulier. Alors, tant qu'on est dans l'eau, tiens. La baleine à bosse, dont je vous parlais déjà la semaine dernière, en train de se reproduire au large de la Colombie, elle fréquente aussi désormais le large de l'île de la Réunion.
On n'imaginait même pas voir une baleine à la Réunion avant.
C'est Rémi Thésier qui parle, habitant de La Réunion, et réalisateur du film Animalie intitulé « Quand baleines et tortues nous montrent le chemin » dont est issu le chant qu'on entend, projeté cette semaine au Congrès et qui sera rediffusé d'ici la fin de l'année sur Arte. Baleines et tortues aussi, oui, de retour.
Il y a 30 ans, pour filmer les tortues marines, on partait dans les îles Éparses à des milliers de kilomètres. Et maintenant, les tortues marines, elles sont bien présentes à La Réunion. À chaque plongée, on voit une tortue. Et pour les baleines, ça, c'est pareil. C'est des baleines à bosse qui donc, se nourrissent en Antarctique et qui vont remonter vers Madagascar et venir jusqu'à La Réunion pour se reproduire. Et donc les petits baleineaux, eh ben, ils sont réunionnais.
Et quand on plonge tous les jours ou presque pour filmer, voilà le genre de scène qu'on peut avoir la chance de voir. C'est le journal des bonnes nouvelles, alors c'est cadeau.
Et une fois, on a vu de la surface qu'elle était au fond à 40 mètres sur le sable. Donc je suis descendu et là, elle s'est mise à danser devant moi sur le sable. Mais quand je dis danser, c'est vraiment comme une danseuse. Et elle était là, sur le rostre, avec ses nageoires pectorales, avec ses mouvements. Et j'ai vécu un moment incroyable.
Pas mal, hein. Le fond de l'eau encore, mais alors cette fois à l'autre bout du monde.
Yorana.
Bonjour Timéry de Tahiti, qui nous présente un projet de l'Institut Polynésien de Biomimétisme, des nurseries coralliennes 100% naturelles et locales, pour que le corail repousse dans les meilleures conditions possibles.
Pour pouvoir insérer nos boutures et ne pas utiliser le béton ou la colle qu'on utilise actuellement dans les nurseries, le tressage en paix aurée, qui est du pandanus.
Qui est du quoi ?
Qui est du pandanus.
C'est quoi ?
C'est un arbuste qui était utilisé à l'époque des ancêtres pour la navigation dans les voiles. La coralline, qui est une espèce de colle naturelle, se reproduit super facilement sur ce genre de matériaux. Voilà, donc ici vous avez le pandanus et le kéré qui vient de la fibre de coco. Donc la fibre de coco parce que c'est imputrescible. Nous, dans les îles, on dépend vachement des océans. Donc il nous tient à cœur justement de protéger les récifs coralliens parce que c'est notre garde à manger, ça nous protège. Et puis, ben, on va au surf aussi.
Ah ouais, il faut pas oublier de s'amuser. Hein. Et comme ce congrès de la nature est un congrès, donc Mathieu, mondial, je continue le voyage. Nous voici en Inde, mon pays préféré, avec Vivek Manon, fondateur de l'ONG Wildlife Trust of India, qui fait en sorte de sécuriser et de sanctuariser les terrains qui jouxtent ou traversent les lieux de vie, parfois depuis des milliers d'années, des 3000 tigres ou des 29 000 éléphants du pays, pour qu'il y ait moins de rencontres homme-animal. Et vous allez entendre, il nous met un petit taquet.
Big animals I'm talking about, right?
Je parle de gros animaux, hein, qui tuent parfois entre 400 et 500 personnes par an. Donc c'est des vrais conflits, pas juste un petit troupeau là ou un loup qui mange une brebis et qui fait la une en Europe. Ce sont des gens qui meurent. Mais malgré ça, la plupart des Indiens tolèrent et veulent protéger les animaux. C'est un miracle. Et je termine, Mathieu, ce petit tour des bonnes nouvelles en chanson sur un vélo. Vous allez comprendre.
C'est ce qu'on appelle un vélo solaire. Donc en fait, c'est un vélo électrique auquel on a ajouté un panneau solaire sur l'avant du vélo, puisque l'objectif, évidemment, c'est d'être autonome en énergie, c'est-à-dire que le vélo produise lui-même sa propre énergie grâce au soleil.
L'Odyssée d'Ulysse, le nom du vélo Ulysse, conduit par Jérôme Zindi. Je vous raconte la suite et en longueur, lundi matin à 5h25. Mathieu, je vous vois danser comme une baleine.
Ben oui, j'adore Bonnet M. Merci pour la comparaison avec la baleine, Camille Cronier.
Mais c'était un compliment, enfin.
En tout cas, on vous souhaite bon retour depuis Marseille. On se retrouve ben lundi, en direct.
On se retrouve lundi.
Et dans un instant, on va parler dragon de Komodo avec notre invité du club, Nicolas Vidal. Respire encore, extrait de son dernier album, Clara Luciani.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Dans les îles du sud de l'Indonésie, le roi lézard a élu domicile. Le dragon de Komodo. Mais c'est un survivant.
Nicolas Vidal, vous êtes biologiste, herpétologue, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes spécialiste de l'évolution et de l'histoire naturelle des reptiles. Et on a souhaité vous inviter pour parler d'un animal. Alors, moi qui personnellement me fascine beaucoup, c'est le varan de Komodo, appelé dragon de Komodo, qui vient donc de passer dans la liste rouge de l'UICN, dans la catégorie des espèces menacées d'extinction. Ce dragon de Komodo était classé comme espèce vulnérable jusqu'à maintenant.
Vulnérable, hein, c'est ça. Donc c'est la catégorie... en dessous de celle à laquelle il est passé. Maintenant, ouais. Il est en danger. Il y a encore pire, c'est critiquement en danger.
Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors pour qu'il change de catégorie exactement?
Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Ça, c'est pour ça que c'est une espèce symbole pour la conservation de la nature, parce qu'on sait comment le sauver. Là, on a tout. Ouais. L'aire de distribution est assez petite. C'est une bestiole très médiatique, qui a toujours fasciné. Ouais. Elle a été découverte en 1910. La première expédition... pour aller le chercher, c'était 1926, et on a un chef-d'œuvre, c'est le film King Kong, ouais. de 1933, ouais. qui est directement inspiré, enfin lié au varan de Komodo, ouais. au dragon.
Ouais. Mais alors c'est un animal très particulier, parce qu'en plus, on le disait tout à l'heure en présentation, il vit vraiment sur une partie mais minuscule du globe.
Il vit sur 5 îles.
Ouais. Donc tout en Indonésie ou pas?
Tout en Indonésie, c'est les îles de la Sonde, ce sont ouais. des petites îles qui sont à l'est de Bali et à l'ouest de Timor. Mmh. Donc, à mi-chemin de Sumatra et Australie.
Ouais. Et comment on explique justement qu'il y ait une aire de répartition aussi limitée?
Originellement, il y a 4 millions d'années, c'était une bestiole australienne. Et puis, qui par dispersion, donc la bestiole s'est déplacée, est arrivée sur ces petites îles de la Sonde. Mmh. Et il y a un phénomène évolutif assez courant, c'est que des animaux d'une taille relativement... Enfin, ont tendance à augmenter leur taille, en tout cas pour les reptiles, sur les îles. Ce qui explique, c'est la même chose que pour les tortues marines les plus grosses, c'est ouais. Galapagos, Seychelles. Pour le varan, c'est la même chose. Ouais. L'aire de répartition réduite, c'est l'aire de répartition actuelle. Il doit être certainement... plus abondant précédemment.
Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui explique, parce que je vous ai coupé dans votre réponse tout à l'heure, mm-hmm. Qu'il ait changé de catégorie? Alors, il y a moins d'individus aujourd'hui.
Alors, le changement de catégorie, chaque catégorie est estimée par plusieurs critères.
Ouais.
C'est la tendance de la taille de la population, augmentation, diminution. C'est la tendance au niveau de l'habitat, augmentation, diminution. Et c'est le nombre d'individus, pareil.
Ouais.
Et donc, les populations ont diminué, hein, elles ont diminué on estime de 50% depuis 2000.
Ah oui, quand même. La moitié
oui,
depuis 2000.
La moitié en 20 ouais. ans, ouais. Ouais, ouais. Voilà, la taille de population, donc c'est en gros 4000.
Ouais. 4000 individus.
Ouais.
Vous êtes inquiet vraiment pour cet animal ou pas aujourd'hui?
Pas vraiment.
C'est-à-dire?
Pas vraiment. Vu. C'est un animal emblématique. Il y a ouais. déjà des plans de conservation actuellement faits par un réseau de zoos européens et puis d'autres. On a le zoo de Beauval, la ferme tropicale, qui contribue à financer aussi cet effort.
Donc la captivité, c'est nécessaire pour maintenir ces gros lézards.
Alors on a plusieurs options. En 2050, il est estimé, d'après des modélisations et le réchauffement climatique, qu'il n'en restera, si on ne fait rien, que sur deux îles.
Ouais.
Rinca et Komodo.
Qui sont des îles très touristiques aussi, hein, très.
Non.
Komodo, il n'y a pas de
touristes. Komodo, un petit peu.
Ouais.
Mais ce sont des parcs nationaux.
Ouais.
Donc c'est relativement bien protégé. Par contre, il est aussi présent sur une de cinquième île qui est plus grande. C'est l'île de Flores.
Ouais.
Et là, l'île de Flores ne fait pas partie de parcs nationaux. Enfin, 80 km² seulement.
Ouais.
Cette île est habitée. On a destruction de l'habitat. On a village, on a agriculture, brûlis, etc.
Et comment se passent les relations, justement, homme-dragon de Komodo? Parce que c'est pas chose aisée que de vivre avec ce gros lézard qui peut atteindre 3 mètres de longueur, quand même. Hein.
Oui, mais ce varan évite la présence humaine.
Ouais.
Donc est assez timide,
farouche.
Ouais. Donc les problèmes sont liés au bétail.
C'est-à-dire, oui, parce qu'il va justement se nourrir et se servir. C'est un redoutable prédateur et on va justement écouter l'extrait d'un documentaire de National Geographic qui nous le précise.
Revigoré par le soleil de l'après-midi, ce mâle a emmagasiné suffisamment d'énergie pour partir à la chasse. Il s'en prend régulièrement à ses jeunes congénères. Celui-ci fait bien de grimper à toute vitesse dans un arbre hors de portée. Quand c'est le moment, les dragons de Komodo se déplacent à une allure stupéfiante. Ils atteignent les 20 km/h en sprint. Capable de dévorer 80% de sa masse corporelle en un repas, ce spécimen aura besoin de quelque chose de plus conséquent qu'un rongeur pour être calé. Mais le dragon fait preuve d'une qualité essentielle, la patience. Afin d'économiser son énergie, il refuse les combats de longue haleine avec des proies plus grosses. L'idéal est de conclure le combat en une seule morsure. Un mélange de venin et de bactéries contenues dans sa salive pénètre le système sanguin du sanglier.
Voilà, le sanglier qui va mourir lentement et le dragon de Komodo va attendre tranquillement où il va attaquer avant.
Tout dépend de la taille de la proie.
Ouais. Ouais.
Donc évidemment, quand c'est un buffle, il faut un petit peu de temps. Mais ils s'y mettent en général à plusieurs, les varans de Komodo.
Alors c'est un redoutable prédateur, mais il est situé au sommet de la chaîne alimentaire. Mm-hmm. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut le protéger, parce qu'on appelle ça une espèce parapluie, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Nicolas
oui.
Vidal.
Oui,
hein.
Oui.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il protège plein d'autres espèces aussi.
Tous les grands prédateurs, c'est pour ça on a l'emblème du tigre. Maintenant, une excellente nouvelle, on a le requin blanc. C'était pas un peu comme le dragon de Komodo, c'est pas des bestioles, a priori c'est pas un panda.
Ouais.
Et pourtant, ce sont des animaux très importants, puisque s'ils sont là, c'est que toute la chaîne alimentaire est respectée. Depuis le plancton pour le requin blanc, et puis les végétaux pour le tigre, hein. Ensuite on a un vertébré, enfin chaque maillon de la chaîne alimentaire est respecté. Mmh. Donc en protégeant un grand prédateur, on protège tout le reste.
Ouais.
Même si le grand public ne le sait pas, c'est pour ça que ce sont des animaux qui sont à protéger.
Arthur Gosset, vous avez une question sur le dragon de Komodo?
Oui.
Vous aimez bien cet animal?
Oui, bah, je suis assez fasciné, je pense, comme beaucoup de gens, par cet animal. Et moi, je me demandais, pour Monsieur Vidal, est-ce qu'on peut espérer des autorités indonésiennes qu'elles vont durcir les régulations le concernant pour le protéger davantage? Vous parliez d'une île qui était très en danger. Est-ce qu'on ne peut pas espérer davantage de régulations?
Si, c'est le but. Et ben, à mon avis, c'est aussi un des buts de l'IUCN par ce coup d'éclat lors du Congrès mondial de la nature. Ça met la pression, effectivement, sur les autorités indonésiennes.
Ouais.
C'est-à-dire que Komodo et Rinka, il faut absolument ne pas y toucher, y compris éviter absolument l'écotourisme.
Ouais.
Et puis pour Flores, et ben, il faut limiter l'agriculture. Donc éduquer les populations, les projets de conservation marchent toujours en impliquant les populations locales.
Bien sûr.
Leur montrer que c'est valable pour eux et essayer financièrement de leur trouver des activités différentes de l'agriculture pour qu'ils subsistent correctement.
Ouais. En 2019, c'est l'Indonésie justement qui avait annoncé sa décision de fermer aux touristes l'île de Komodo à partir de janvier 2020. Ça n'a pas été fait?
Non.
Ouais.
Non, en prévision, oui, c'est une prévision d'un écotourisme de luxe.
Ouais, alors justement, ça a basculé en fait. Hein. Ils ont prévu de faire une sorte de Jurassic Park avec beaucoup de millions de dollars pour justement qu'on aille encore plus nombreux voir les dragons de Komodo.
Eh ben, on va voir ce qui va se passer avec cette excellente nouvelle de l'IUCN.
Ouais. Le fait qu'il soit justement sur la liste, ça pourrait interrompre les velléités des
constructeurs. Qu'il soit sur la liste et qu'on sache exactement quoi faire. Donc là, on sait que l'écotourisme est à bannir.
Ouais.
Pour les deux seules îles où c'est sûr qu'il sera encore présent en 2050. Parce qu'il aura, en 2050, quels que soient les scénarios, il aura disparu de Flores, qui est la plus grande île actuellement. Donc il faudra de toute façon transloquer, déplacer les individus de Flores vers Rinka et Komodo. Mmh. Donc il est hors de question de faire de l'écotourisme sur ces deux îles.
François nous écrit sur franceinter.fr, lui c'est donc vient de classer ce dragon en danger, et votre invité dit qu'il n'est pas vraiment inquiet. Est-ce qu'il se rend compte, dit François, du message désastreux que cette incohérence véhicule pour le grand public? Alors qu'est-ce que vous lui répondez?
Oui, je m'en rends compte, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments pour le préserver.
Mmh.
Voilà, donc a priori, 2050, il en restera. S'il a vraiment disparu, c'est qu'on aura tout raté.
Donc vous êtes vraiment très optimiste, alors?
Écoutez, si on n'arrive pas à sauver le dragon de Komodo, Là, on perd tout espoir.
Ouais.
Et il y a une autre solution de secours, c'est que cet animal est quand même élevé en captivité dans des eaux du monde entier.
Et il se reproduit bien ?
Il se reproduit pas mal,
Mais c'est-à-dire qu'on pourrait le réintroduire sur ces îles indonésiennes ?
C'est toujours le même problème. On parle de réintroduction, encore faut-il que les habitats soient intacts.
Ouais.
Mais alors, je suis donc désolé pour cet auditeur, mais on parle beaucoup du dragon de Komodo.
Ouais.
En France, en Nouvelle-Calédonie, on a un gros lézard qui fait 50 cm, qui est sur un îlot qui fait 500 mètres sur 1400 mètres.
Ouais. Il s'appelle comment ce lézard ?
C'est le cinctérifique de Beaucourt.
Ouais.
On en a vu 10 individus. Et on a des touristes, en particulier japonais, qui viennent sur cette île. Donc là, c'est une espèce pour laquelle je dis c'est mort. Mmh. Surtout qu'il y a des rats sur cette île. Donc ce que je veux dire, c'est que le dragon de Komodo est un excellent exemple et dont on devrait s'inspirer pour d'autres animaux qui sont encore plus en danger.
Et dont on parle peut-être beaucoup moins parce qu'ils sont du tout moins connus du grand public. Merci beaucoup Nicolas Vidal, vous restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ces étudiants des grandes écoles qui ont décidé de prendre un virage écolo. Sur France Inter.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation.
Voilà, c'était Clément Chouanne, étudiant à Centrale Nantes en 2018, qui a fait un discours, qui a fait le tour des réseaux sociaux, très remarqué. Et Arthur Gosset, vous êtes vous-même étudiant à l'École Centrale de Nantes. Vous êtes le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Rupture au pluriel, qui sort sur Spicy. C'est une plateforme indépendante de documentaires. Ça sort aujourd'hui. Votre film a reçu le prix coup de cœur du Festival International du Film Écologique et Social de Cannes cette année. Qu'est-ce qu'il est devenu, Clément Chouanne, après ce discours empreint d'émotion et qui a fait beaucoup vibrer?
Alors je crois que Clément Chouanne est aujourd'hui prof à mi-temps à Nantes. Voilà. Après c'est vrai que j'ai pas beaucoup de liens avec lui aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une grosse phase de questionnement aussi de sa part. voilà, le temps de trouver sa place, de trouver sa voie.
Ouais. C'est quoi l'idée de ce film, alors, justement? C'est de montrer qu'au sein même des grandes écoles, il y a aussi un gros bouleversement là, qui est en train de se faire.
Oui, je pense qu'on est en train de vivre un bouleversement chez les jeunes des grandes écoles, que ce soit les étudiants ou les jeunes diplômés. Quelque chose que moi, je vis de l'intérieur en tant qu'étudiant en école d'ingénieur, effectivement. Mm-hmm. Un bouleversement où on a toute une génération qui s'empare des sujets écologiques et sociétaux et qui, du coup, d'une part, va questionner les formations pour réclamer davantage de formations, des formations adaptées aux enjeux.
Parce qu'elles sont très peu nombreuses dans ces grandes écoles en matière d'écologie.
Encore aujourd'hui, très peu nombreuses.
Ouais.
On a des troncs communs qui prennent en compte tout ça, mais ce n'est pas adapté au cursus eux-mêmes. Donc ça, c'est d'une part, voilà, sur les formations, et puis d'autre part, avec, et c'est là où c'est tout à fait nouveau, avec un questionnement plus profond sur le sens même des métiers pour lesquels on est formé de base.
Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une contestation grandissante chez la jeune élite aujourd'hui.
Je pense, ouais.
Vraiment,
oui.
Parce que vous dites vous-même dans le film que c'est très difficile de l'estimer au fond. Il n'y a pas encore d'études là-dessus très précises ni de chiffres, mais on sent bien qu'il y a quand même un mouvement et une dynamique qui existe.
Bah moi, je vais vous dire quelque chose pour un exemple tout simple. Moi, de ma promo, on est 350. On a créé un groupe récemment sur les réseaux sociaux, une cinquantaine d'amis, de camarades de promo, pour justement partager nos questionnements, nos doutes, nos inquiétudes par rapport à notre avenir.
Ouais.
Donc ça représente déjà une belle proportion. Et il y a d'autres personnes que je ne connais pas aussi de la promo qui s'en posent forcément.
Ouais. Mais alors qu'est-ce que ça dit de ces étudiants qui entrent pourtant dans ces grandes écoles, s'ils s'interrogent sur la question, pourquoi même est-ce qu'ils sont attirés par ces grandes écoles, puisqu'elles ont l'air autant en contradiction avec cet esprit écolo?
Alors elles sont en contradiction, maintenant elles s'adaptent. Hein, je pense pas qu'il faut tirer un trait sur ces grandes écoles, surtout pas, c'est pas le message que j'ai envie de passer. Au contraire, moi je pousse les grandes écoles à s'adapter, à avoir des formations davantage à la hauteur des enjeux écologiques et sociétaux. Maintenant, on sait que voilà, ce sont des grosses structures, qu'il faut du temps pour s'adapter et que c'est de la part des étudiants, c'est en venant des étudiants qu'elles vont pouvoir changer de cap. Alors, qu'est-ce que ça dit des étudiants qui rentrent dans ces grandes écoles? Bah, je pense qu'il y a toujours un attrait, il y a toujours une... Ça reste très... C'est un privilège, faut pas se le mentir, de pouvoir accéder à ces grandes institutions.
Mmh.
Donc oui, je pense qu'elles peuvent s'adapter et ne pas les supprimer définitivement, ça serait une bêtise. Oui.
Gildas dirait, c'est à savoir si ces étudiants présentés comme iconoclastes, voire un peu rebelles, sont ou seront bien en mesure d'appréhender adéquatement les structures sociales et économiques responsables de la catastrophe écologique contestée, contre laquelle ils envisagent de construire leur avenir professionnel. J'en doute un peu, car ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école centrale de Nantes, que je connais très bien au passage, dit Gildas.
Oui, après je pense que justement, c'est là où c'est un peu nouveau aussi, c'est-à-dire que nous, on s'est beaucoup formés sur... En fait, en école d'ingénieur notamment, on est formé pour faire confiance à la science, et la science nous dit qu'on va droit dans le mur.
Mmh.
Et nous, on est pas mal de camarades à avoir échangé sur ce qu'on pouvait lire en dehors de l'école. Parce qu'effectivement, à l'école, moi, quand j'y étais, parce que je termine, vous prenez une formation dans le bâtiment, par exemple, vous allez uniquement avoir des cours sur le béton, l'usage du béton, qui est un des plus gros pollueurs quand même, un des composants les plus pollueurs du monde. Donc, alors qu'on n'a pas du tout de formation sur des matériaux plus écologiques, comme l'usage du bois, par exemple. Donc ça, c'est un problème. Et on se forme à côté, par nous-mêmes.
Mmh.
Et on réclame une adaptation des formations.
Alors le pitch du film, c'est six camarades qui ont décidé justement de changer de cap parce que c'est justement ce qu'ils sont en train de faire ne leur donne plus vraiment le sens de leur propre philosophie. On va écouter Hélène, justement, une de vos camarades qui en parle très très bien.
Je me suis rendu compte que c'était vraiment un job, on appelle ça un bullshit job, c'est un job dans lequel t'as absolument aucun impact environnemental, social, quoi que ce soit. J'ai toujours été plus ou moins engagée contre la surconsommation et je me suis rendu compte que j'agissais complètement dans le sens inverse.
Et t'as démissionné.
En fait, au moment où on m'a proposé de monter au siège, donc d'avoir une promotion interne et d'augmenter à la fois en salaire, machin, tout ça, et aussi en responsabilité, là, à ce moment-là, j'ai dit c'est fini, je peux plus faire à grande échelle ce que vous me demandez de faire, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai démissionné, j'ai quitté mon boulot et j'ai décidé de donner du sens à ma vie.
En faisant des confitures, hein, c'est ça pour Hélène, hein.
Exactement. Ouais.
Ouais. Mais c'est incroyable parce que partir d'une grande école pour finir par mettre des fruits dans un pot de confiture, c'est étonnant, non?
Je pense qu'il faut passer par là pour justement revenir à des métiers qui font sens. Et c'est ça l'urgence dans laquelle on se trouve tous maintenant. C'est en fait, on a été formés pour des métiers en réfléchissant un petit peu derrière. Alors je veux pas généraliser non plus, mais on se dit, mais il est où le sens? Il est où l'impact positif? Et face à l'urgence dans laquelle on est. On a cette envie et cette nécessité, ce besoin vital de trouver urgemment une autre place dans la société qui fasse sens avec un impact positif dans ce monde.
Est-ce que vous affrontez aussi beaucoup de critiques par rapport même à votre milieu social, assez favorisé pour la plupart d'entre vous? On sait bien qu'aujourd'hui, ce sont les familles les plus favorisées qui sont également les plus émettrices de gaz à effet de serre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour vous, justement, dans la façon dont vous appréhendez les choses?
C'est tout l'enjeu, justement, de pouvoir continuer à échanger, de communiquer sur ce qu'on ressent, dire, regardez, effectivement, nous, on a des questionnements, des inquiétudes, on change de cap. Pourquoi est-ce qu'on change de cap? Il y a des fondements derrière, c'est bien réfléchi, tout ça vient pas de nulle part. Et c'est important, et c'est d'où le film aussi, pour communiquer sur ce qu'on ressent de l'intérieur, et essayer de dire, ok, on est en rupture aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ces ruptures, et pour que vous acceptiez le fait qu'on se tourne vers des métiers, par exemple, moins reconnus, qui peuvent être moins reconnus socialement, mais qui pour autant font beaucoup sens pour nous.
C'est-à-dire que venant de milieux aisés, certains d'entre vous sont vraiment capables de prendre un cap où ils vont gagner beaucoup moins d'argent, où il y aura effectivement moins de reconnaissance.
Complètement, oui, parce que je vous dis, c'est ancré en nous, c'est ce besoin vital de faire quelque chose de bien, de positif, et on a cette nécessité d'être aligné avec nos valeurs, avec nos convictions. Plus que tout, moi j'ai une amie qui est justement que j'ai filmée dans le documentaire, qui pour des choix écologiques et sociaux par rapport à ses convictions a décidé de faire son stage dans une association en deuxième année de Centrale Nantes. Son père l'a très mal pris, pour lui c'était un échec. Ils ont arrêté de se parler pendant 6 mois.
Ouais.
Donc et la rupture, donc c'est pas à prendre à la légère quand même.
Nicolas Vidal.
Oui, moi je tenais à vous féliciter parce que...
Merci beaucoup.
Moi c'est même émouvant. Moi, j'ai fait prépa, pas la même, prépa veto, mais que des gens qui soient l'élite, intelligents, avec un avenir tout tracé, très rémunérateur, se remettent en question et cherchent un travail utile avec du sens, c'est vraiment important, parce que c'est grâce aux jeunes, aux générations futures, qu'on va s'en sortir. Donc, bravo.
Voilà. C'est ce que vous vouliez dire, tout simplement.
Oui, ça fait du bien, parce qu'on a eu la crise Covid. Avec le confinement, etc., les messages qu'on voyait partout, il faut changer le monde. On est en train, normalement, de s'en sortir grâce au vaccin. Tout repart comme avant.
Et justement, c'est ce qu'on voit avec vos parents, Arthur Gosset. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des frictions, des incompréhensions dans les discussions. C'était juste pour la caméra ou c'est vraiment tout le temps comme ça?
Non, il y avait vraiment des frictions et c'est pour ça que j'ai fait ce film. Je vous le disais au début d'émission. Maintenant, ça s'est bien amélioré et tant mieux. Parce que c'est pour ça que j'ai fait ce film. C'est-à-dire que j'étais porté par la volonté de nouveau communiquer avec mes parents.
Ouais.
Je pense qu'il y a... on vit dans deux générations différentes et il ne faut pas leur en vouloir si toute leur vie ils ont vécu dans une société qui prône l'ultra-consumérisme, etc.
Allez, on va écouter un dernier extrait avec Maxime.
Moi je me sens comme un petit con qui dit à ses parents, j'aurais pu trouver un stage où j'étais payé plutôt le SMIC qu'un salaire de stagiaire. Comme la majorité des gens qui font Mastercom, ils sont payés 1 200 €, tu vois, et moi je suis le seul qui est payé genre quasiment 600 balles. Donc au final, ça fait un loyer à Paris. Donc là j'ai eu de la chance, encore une fois, c'est que des questions de chance. J'ai eu de la chance de trouver une pote qui m'héberge pendant quelques mois à Paris, donc j'ai pas de loyer à dépenser. J'essaye de faire des demandes de financement pour des projets que j'ai envie de mener qui permettraient aussi de me rémunérer moi du coup. C'est jouer au petit con parce que du coup je laisse mes parents dans une situation d'instabilité aussi où ça va jusqu'à quand ils vont devoir me financer quoi. Il y a un moment où ça va craquer et ma mère elle va sûrement me dire non, ça arrête les conneries quoi. Et si je leur parle d'offres d'emploi que j'ai par exemple en me disant on m'a demandé si je voulais travailler pour telle et telle boîte machin, ils vont me dire t'acceptes quoi, c'est tout, enfin t'acceptes, tu fais pas le con, t'acceptes et voilà, et tu peux toujours être militant à côté de ton taf et tout, mais.
Voilà, le témoignage de Maxime dans votre documentaire Rupture, avec tous les doutes que ça peut susciter, parce qu'on voit même une de vos camarades craquer. Parce que ça remet vraiment toute la vie en question, au fond.
Oui. Puis on se cherche, quoi. Là, il faut réinventer notre place. C'est pas simple.
Ça sort aujourd'hui?
Ça sort aujourd'hui sur Spicy, SPICEE.com. Et puis également, l'idée, c'est de le diffuser au maximum. Donc, on organise des projections gratuites partout en France, que vous pouvez retrouver sur le site Rupture avec un s-le-film.fr. Vous pouvez aussi organiser vos projections dans vos villes respectives, gratuitement, en toutes les infos sur le site.
Voilà, autour de ce mouvement des grandes écoles, à suivre en tout cas, voir si ça prend beaucoup d'ampleur, mais ça semble être le cas. Merci beaucoup Arthur Gosset, merci à vous Nicolas Vidal, et bon week-end.